Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Virage et protégez-vous. Au programme, Diane sans Dufresne. Oui, il existe des solitudes glorieuses. Et comment décaisser votre épargne à la retraite. Bonne écoute.
Diane sans Dufresne, un texte de Joanne Mercier, paru à l'été 2023 dans le magazine Virage. C'était il y a presque 50 ans, Diane Dufresne, qui avait abandonné son costume et sa voix de chanteuse straight, se produisait ce soir-là à l'auditorium du Cégep à Antique, à Montréal. Elle commençait son spectacle de la salle, les spectateurs se demandant d'où venait la voix qui chantait. « Quand je mettrai les pieds sur scène comme un torero dans l'arène, quand je ferai mon premier show dans mon costume de lumière, j'aurai l'air de marcher sur l'air. » Et là, elle montait sur scène avec une robe comme on n'en voyait jamais, avec une voix comme on n'en entendait jamais. Je le sais, j'étais là, jeune étudiante en arts et lettres, submergée d'une émotion que je n'ai pas oubliée. En juillet prochain, Diane Dufresne montera de nouveau sur scène, pas seulement pour chanter, mais pour se dévoiler à travers les questions du public. C'est Gilles Vigneault qui lui avait soufflé à l'oreille, il y a 4 ou 5 ans, d'aller à la rencontre des gens. L'idée a fait son nid et quand le festival Coup de cœur francophone l'a invitée à participer à son édition 2021, l'oiseau a pris son envol. Ainsi est né ce rendez-vous, spectacle piano-voix intimiste, une initiative d'une sobriété déconcertante pour cet artiste qui incarne la démesure. Ce spectacle, Diane Dufresne ne l'a présenté qu'un seul soir, le 14 novembre 2021. C'était au Jésus, théâtre mythique dont elle aime les vibrations, devant des gens masqués assis à tous les deux sièges, se souvient-elle. Mais le moment lui a plu, beaucoup. Elle a attendu que les visages se découvrent pour poursuivre l'expérience dans une tournée d'une dizaine de villes qui s'amorce en juillet 2023. D'une certaine façon, je me laisse entraîner par les restrictions liées à la pandémie en pensant « Faisons dégarni aussi », raconte-t-elle. Pas de piédestal, de projecteur ni de gros show pour livrer des bouts de ma vie. Avant que le monde raconte des choses sur mon cas, aussi bien le faire moi-même. La diva se raconte. L'affiche parle d'un spectacle causerie. Parlons plutôt d'un événement. Diane Dufresne, dont la belle furie s'est exprimée par des extravagances de toutes sortes, arrivera sur scène sagement, s'installera derrière un lutrin. Ceux qui s'attendent à voir apparaître une diva avec une longue robe à traîne seront surpris, raconte-t-elle. Accompagnée au piano par Olivier Godin, elle chantera 6 chansons triées sur le volet, devant un public qui ne se fondra plus dans l'obscurité d'une salle. Attisée par cette lumière, Diane Dufresne, la femme, ouvrira les vannes de sa passion pour la chanson, de son enfance pétrie de musique, de son Paris rive gauche des années 1960, de sa rencontre avec Clémence, puis les autres, Cousineau, Plamondon, dont les noms sont à jamais liés à son répertoire, avant qu'elle ne signe elle-même ses propres textes. En toute simplicité, elle entend revoir la copie de quelques faits d'armes. Ose des confidences sur son album « Tiens-toi bien, j'arrive » en 1972, dont elle pensait qu'il serait le dernier. « Je ne croyais pas que les gens allaient me suivre dans ma folie. » Sur « Opéra Cirque » paru en 1973, C'est après avoir écouté ces chansons-là que Michel Berger a proposé à Luc Plamondon de faire Starmania. Sur Magie Rose, 1984, ce n'est pas du stade dont je me souviens, mais de la mer rose qui s'étalait devant moi. Ses seules évocations font monter en elle les émotions de l'époque. Elle dit qu'elles vivent en permanence sous sa peau. Dans l'aventure sur rendez-vous, Diane Dufresne ne fera pas que répondre aux questions du public. Elle en posera aussi. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien avoir envie de savoir? Sa réponse est trop rapide pour ne pas venir du cœur. Pourquoi ils sont là et depuis si longtemps? Si longtemps. Diane Dufresne a 78 ans et le mot « vieille » ne la trouble pas. Même si tu as l'air d'une sorcière quand tu te mets un chapeau pointu sur la tête, la vieillesse apporte un bagage intéressant. Vieillir, pour moi, c'est faire des supplémentaires. Tout ce que je n'ai pas fait dans ma vie parce que j'étais timide, je le fais maintenant. J'ai des envies différentes. C'est une autre forme de désir. Elle s'émerveille devant le jour naissant, même si tu constates de l'autre côté que tes bras ont l'air d'avoir 1000 ans. Mais tu ne peux pas mépriser ton corps qui est une enveloppe qui t'a beaucoup donné et qui te donne encore. Pour celles qui croient que l'immortalité serait une catastrophe, vieillir est cependant une aventure à laquelle sa génération n'était pas préparée. Nous sommes des pionniers, des nouveaux vieux. La science nous dit que nos neurones se régénèrent grâce à de nouvelles activités, de nouveaux apprentissages. Alors vivons intensément. Chaque jour compte. Si on restait toujours stationné sur ce qui a été, on ne pourrait plus avancer. Puis, la conversation a pris fin. La voix de Diane Dufresne, si particulière, s'est éloignée. J'ai alors repensé au moment où elle a mis les pieds sur scène comme un torero dans l'arène, quand elle a fait son premier show dans son costume de lumière et qu'elle avait vraiment, mais vraiment l'air de marcher sur l'air. C'était, ma foi, hier. C'était Diane sans Dufresne, un texte de Joanne Mercier paru à l'été 2023 dans le magazine Virage. Oui, il existe des solitudes glorieuses. Un texte de Jocelyne Robert, paru à l'été 2023 dans le magazine Virage. Il n'existe pas de formule de vie idéale. En solo, en duo, en famille, rien n'est jamais parfait. Il y a des couples dont l'un des partenaires souffre d'isolement, des familles dont les membres vivent repliés sur eux-mêmes. Alors, clarifions cela d'emblée. Vivre seul ne signifie pas solitude existentielle, ni retranchement ou isolement. Pourtant, la solitude fait peur, et ce, le plus souvent pour des raisons construites de toutes pièces. L'importance démesurée accordée à la vie à deux et à la relation conjugale a engendré cette frousse. Mais tout le monde sait bien que le couple ne vient pas avec une garantie de bonheur à vie. Se mettre en ménage est une formidable aventure. C'est aussi une construction trop fragile pour contenir tout le sens de la vie d'un être humain. Il y a des joies et des peines, des difficultés et des ravissements dans les deux modes de vie. Priorité à soi. Je n'ai jamais autant cultivé mes amitiés, apprécié mes proches, voyagé, fréquenté théâtre, cinéma et restaurant que depuis que je vis seul. C'est une amie à moi qui parle. À 71 ans, c'est la personne la moins seule que je connaisse. Son carnet de bal déborde, elle fait partie d'un club de marche et mène une vie qui la comble. S'ennuyer, quel bonheur ce serait, blague-t-elle. Il me semble que cela me reposerait. Vivre seul comporte l'avantage de se donner priorité, de privilégier ses choix sans trop de compromis, sans remords ni culpabilité. Être amoureux de sa propre vie, des joies qu'elle procure, d'une passion qui allume et à laquelle on se consacre en toute liberté, ce n'est pas rien. et cela ne contrarie personne. Enlevons-nous de la tête que la disposition à aimer s'effrite parce qu'on ne fait pas partie d'un couple. L'amour et la générosité se manifestent dans l'allégeance à une cause, dans la disponibilité à l'ami, à un parent, aux petits-enfants, dans le rapport hédonique à la nature, dans la pleine utilisation de nos énergies créatrices, dans une sensualité assumée. Pas besoin d'être à deux pour que l'être humain soit un agent multiplicateur d'amour. Des relations de qualité. Et puis, c'est la qualité des relations qui donne du sens et de la saveur à la vie. Les célibataires demeurent des êtres en relation. Quant à la perception du bonheur, elle est éminemment subjective. Les uns se disent malheureux de vivre seuls, alors que les autres jurent qu'ils ne vivraient pas autrement. Des célibataires envient les couples alors que des protagonistes de couple rêvent de célibat. Et croyez-moi, cela se rencontre chez les personnes de tous âges. À mes yeux, la capacité de recontacter l'enfant en soi, oui, recontacter l'enfant et non pas retomber en enfance, est un précieux gage de bonheur chez les personnes aînées. Dans cette foulée, Charles Bukowski disait qu'on a tendance à chercher quelqu'un avec qui vieillir alors que l'on devrait chercher un complice avec qui rester enfant. Rien n'est pire que de vieillir aux côtés d'un compagnon aigri, d'une compagne qui ne nous fait jamais rire, d'une moitié qui nous fait des reproches à l'infini. Il y a des solitudes enrichissantes tout comme il y a des vies quotidiennes à deux enrichissantes. Dans chaque situation, il existe également des quotidiens éteignoirs. Un amour, deux toits. Enfin, on peut aussi avoir un amoureux ou une amoureuse sans être tenu de se cantonner aux archétypes traditionnels. Avec la confiance en soi et en l'autre, les activités personnelles en dehors du conjoint sont sereines et bien accueillies. Si on a les moyens financiers de vivre en amour sous deux toits, le grand lit dans lequel on occupe tout l'espace quand ça nous chante ou dans lequel on se blottit en cuillère quand ça nous le dit, représente pour plusieurs la formule la plus satisfaisante. Et si l'autre nous ronfle à l'oreille, on en rit car on sait qu'on dormira mieux le lendemain. Regardez autour de vous. Oui, il existe des unions glorieuses. Et oui, il existe des solitudes glorieuses. Être en amour avec la vie elle-même, avec la vie que l'on se fait, voilà un autre gage d'une vieillesse bienheureuse. C'était « Oui, il existe des solitudes glorieuses », un texte de Jocelyne Robert, paru à l'été 2023 dans le magazine Virage.
Comment décaisser votre épargne à la retraite? Par Mathilde Roy, 30 mai 2023, tiré de la revue Protégez-vous. Ça y est, après avoir épargné toute votre vie, vous voilà à la retraite. Mais attention, la manière dont vous décaisserez vos actifs pourrait avoir des répercussions sur votre niveau de vie, qu'il s'agisse de REER, de FER, de CELI ou d'autres montants. Les conseils de deux planificateurs financiers. Une fois à la retraite, devriez-vous d'abord retirer les avoirs de vos REER et ou CELI? À quel âge demandez-vous rente du gouvernement? Comment gérer les risques d'inflation et les soubresauts du marché? À toutes ces questions, le planificateur financier indépendant André Lacasse commence sa réponse par « Ce n'est pas noir ou blanc ». Un grand nombre de variables sont à prendre en compte dans l'analyse du décaissement de votre épargne à la retraite. Chaque cas est donc unique. Des pistes gagnent moins à être suivies et certaines pratiques sont carrément à éviter. La plus grande erreur que commettent les nouveaux retraités, le manque de planification selon Nathalie Bachand, présidente d'Éduc Épargne. Un sondage de l'organisme publié en 2020 révélait que 73 % des Québécois ne pensent pas planifier la façon dont ils utiliseront leur bas de laine avant d'être effectivement à la retraite. Les gens s'en préoccupent néanmoins de plus en plus, constate-t-elle, même s'ils sont encore nombreux à attendre à la dernière minute et à faire avec ce qu'ils ont. Pourtant, chacune des décisions que vous prendrez pendant cette grande étape est susceptible d'avoir des conséquences majeures, voire irréversibles, sur vos revenus futurs. Vous pourriez par exemple demander votre rente trop tôt ou encore perdre des crédits d'impôt. Pour vous aider à dormir sur vos deux oreilles, les experts insistent sur l'importance d'établir un plan de décaissement et d'adopter toutes les stratégies fiscales qui pourraient vous avantager. Bâtir un plan de décaissement. La première étape consiste à définir vos objectifs de retraite et de style de vie que vous désirez, puis d'inventorier vos sources de revenus. Celles-ci incluent les prestations des régimes publics, soit le régime des rentes du Québec, RRQ, et la pension de la sécurité de vieillesse, SEV, au fédéral, l'épargne personnelle que vous aurez accumulée et les régimes de retraite offerts par l'employeur lorsqu'ils s'appliquent. Retraite Québec estime que vous aurez besoin d'environ 70 % de vos revenus annuels bruts de travail pour maintenir votre niveau de vie, puisque vos dépenses seront généralement moins élevées une fois à la retraite, la maison est payée, vous vous déplacez peut-être moins en transport, etc., etc. André Lacasse y va tout de même de nuances. Tout dépend de vos projets. Et si vous êtes de type dépensier, parfois les retraités ont en effet besoin de plus d'argent que lorsqu'ils travaillaient. Une personne qui va en Floride tous les ans et une autre qui reste au Québec n'auront pas besoin des mêmes revenus, illustre le planificateur financier. Robert, bien que ce témoignage soit réel, le prénom utilisé est fictif pour préserver l'anonymat de la personne, 65 ans, est à la retraite depuis maintenant 4 ans et ne compte pas se priver pendant que la santé est encore au rendez-vous. Entre 60 et 75 ans, lorsqu'on est en santé et bien entendu, en situation d'en profiter, c'est le temps de voyager le plus possible et de dépenser ses billes de façon responsable, juge-t-il. Avec son épouse, aussi retraitée, il se paie 2 voyages par année. Il faut dire qu'il n'a pas attendu à la dernière minute pour amasser du blé pour ses vieux jours. Toute sa vie, il a épargné assidûment. Pour financer son train de vie, Robert reçoit depuis un an sa rente de retraite du RRQ et comble le manque à gagner en pigeant dans ses REER. Pour ce qui est des CELI, je les conserve comme un bas de secours parce qu'il s'agit d'argent qui fructifie à l'abri de l'impôt, dit-il. Sur les conseils de son planificateur financier, le retraité compte demander la pension de la SRU plus tard à 67 ans. Régime de retraite publique, attendre ou non? C'est l'un des grands défis. Déterminez l'âge auquel vous recevrez vos rentes publiques. Vous pouvez commencer à percevoir celle du RRQ à partir de 60 ans et la pension de la sécurité de la vieillesse à partir de 65 ans. Néanmoins, plus vous les retardez, plus les montants obtenus grimpent. Dans beaucoup de situations, reporter le versement des rentes le plus tard possible est l'option à privilégier, parce que cela permet un revenu bonifié, payable le restant de vos jours, explique Nathalie Bachand. Concrètement, une personne qui aurait droit à une rente de RRQ de 10 000 à 60 ans profiterait d'une augmentation à vie de 2 248 $ par année si elle la demandait plus tôt à 62 ans, selon les simulations de Retraite Québec. En repoussant sa demande à 70 ans, elle pourrait même plus que doubler la valeur de sa rente. Afin d'inciter les Québécois à rester plus longtemps sur le marché du travail, le gouvernement fera passer l'âge maximal pour réclamer la rente du RRQ de 70 à 72 ans à partir du 1er janvier 2024. Ces 2 années supplémentaires entraînent une hausse à vie de la rente annuelle pouvant atteindre 2 634 $. De l'avis d'André Lacasse, retarder l'âge du versement de vos rentes est l'une des meilleures protections contre l'inflation et ce que les planificateurs financiers appellent le risque de longévité. Cela signifie que, si vous vivez vieux, il est possible que vous épuisiez votre épargne alors que les rentes, elles, sont versées à vie, en plus d'être indexées chaque année. Les gens oublient que ça coûte cher de vivre jusqu'à 100 ans, lance le planificateur financier. Il concède toutefois qu'il peut être dangereux de prendre la rente du RRQ très tôt dans certaines situations, par exemple pour une personne dont l'espérance de vie est réduite par des problèmes de santé. Attention à l'ordre des retraits. Au moment du retrait, le CELI ne sera pas imposable, mais le REER le sera au même titre qu'un salaire. Alors, dans quel ordre décaisser vos actifs? C'est l'autre grand point d'interrogation. Et une fois de plus, les experts martèlent qu'il n'existe pas de recette universelle. Cela dit, André Lacasse signale que décaisser certains montants de vos REER de façon progressive et anticipée s'avère souvent une stratégie gagnante. Vous pouvez ainsi niveler votre revenu imposable dans le temps et profiter de paliers d'imposition plus bas. Même son de cloche du côté de Nathalie Bachan. Celle qui est aussi planificatrice financière spécialisée en retraite donne l'exemple d'une personne seule qui détiendrait 500 000 $ dans des placements non enregistrés dont les retraits ne sont pas imposables et 500 000 $ dans les REER dont les retraits sont imposables. Elle pourrait penser que sortir son capital non enregistré les premières années lui permettrait de ne pas payer d'impôts, mais ce n'est pas une bonne solution. Parce qu'elle se prive des premiers taux d'imposition qui sont plus faibles, ce sera plus avantageux de prévoir une combinaison des deux types d'actifs. Quand les REER deviennent des FER, les REER que vous n'aurez pas retirés avant 71 ans seront convertis en fonds enregistrés de revenus de retraite FER. Il vous faudra alors obligatoirement en retirer une portion minimale chaque année sur laquelle vous devrez payer de l'impôt. Or, soyez diligents dans vos projections, comme le conseille André Lacasse, car si vous attendez à 71 ans pour commencer vos retraits, il se peut que vos revenus soient trop élevés pour avoir droit à certains crédits d'impôt, comme le montant, en raison de l'âge, admissible aux personnes de 65 ans et plus. Le revenu annuel familial net, à partir duquel ce crédit ne sera plus disponible, s'élève en 2023 à environ 58 219 $ au provincial et à 98 305 au fédéral. Il en va de même pour la pension de l'ASV versée par le gouvernement fédéral. À partir d'un certain seuil, 86 912 en 2023, il y a un impôt de récupération à payer sur cette prestation. Soyez accompagnés. Comme vous pouvez le constater, cet exercice peut rapidement devenir un véritable casse-tête. C'est pourquoi il est conseillé d'être accompagné par un planificateur financier qui utilise des logiciels de simulation précis. Des outils en ligne accessibles au public comme SimulR et SimulRetraite, élaborés par Retraite Québec, vous donneront des indications sur les sommes que vous devrez épargner et sur les revenus auxquels vous aurez droit à la retraite. Mais vous n'aurez pas de stratégie de décaissement à l'intérieur de tout ça, précise Nathalie Bachan. Une affaire de couple. Si vous êtes en couple, vous gagnez à faire cette planification à deux, selon la présidente d'Éduc Épargne. Il y a des couples qui gèrent leurs affaires séparément toute leur vie, mais une fois à la retraite, ce n'est peut-être plus l'idéal, parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes actifs, estime-t-elle. Quand c'est le cas, une des stratégies les plus payantes est de fractionner les revenus de pension et de retraite. La chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke rapporte que, pour l'année d'imposition 2018, 240 355 couples ont utilisé cette stratégie fiscale. Le concept est simple. À compter de 65 ans, un particulier peut transférer jusqu'à 50 % de ses revenus admissibles à son époux ou son conjoint, de fait dans sa déclaration de revenus. Ainsi, si vous déclarez 100 000 $ de revenus et que votre douce moitié en gagne 20 000, votre taux marginal d'imposition sera plus élevé que le sien. Donc, en lui transférant une partie de vos revenus, vous paierez moins d'impôts. Avant 65 ans, une autre stratégie peut être avantageuse, soit celle qui consiste à cotiser au REER de son conjoint. Cette option permet à la personne au revenu le plus élevé du couple de profiter d'un généreux remboursement d'impôts. À la retraite, l'autre conjoint pourra retirer les sommes et ne payer que très peu d'impôts s'il s'agit de ses seuls revenus. Une telle mesure ne convient pas nécessairement à tout le monde, mais elle pourrait être exploitée avec votre planificateur financier. En cas de séparation, le sort des REER dépend totalement du statut de la relation, comme l'explique André Lacasse. Les REER d'un couple marié font partie du patrimoine familial et devront être partagés entre les époux divorcés. Pour les conjoints de fait, ça se complique, poursuit le planificateur financier. Seul le titulaire du REER est propriétaire des montants cotisés et des revenus au moment d'une séparation. Un contrat de vie commune qui précise le partage des biens et les modalités de séparation pourrait éviter les litiges. Quand planifier? L'épargne pour vos vieux jours doit débuter tôt dans la vie, il va sans dire. Aussitôt qu'un jeune couple démarre une famille ou achète une maison, ou même avant, il devrait commencer à planifier. On ne planifie pas les mêmes affaires, mais on planifie tranquillement jusqu'à ce que ça devienne une planification de retraite, souligne Nathalie Bachand, présidente d'Éduc Épargne. Le plan de décaissement de vos actifs à la retraite, dans lequel vous déterminerez notamment les montants à retirer et l'ordre dans lequel vous le ferez, peut se faire quelques années avant que vous ne quittiez le marché du travail. Ce plan doit être revu aux 2 ou 3 ans, ou si votre situation de vie change, d'après le planificateur financier André Lacasse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Serge Hamelin à la lecture, Diane Métaillé à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.